On a un peu parlé hier du fait que, comme on vient de le dire, se réunir autour de Jésus, c'est pas naturel. Hein? C'est quelque chose, il y a une onction et on a besoin de ça. On a besoin de quelque chose qui transcende nos vies, qu'on puisse être libre et souvent être libre de nous-mêmes. Hein? Je dis souvent... Le plus grand des problèmes, il est souvent entre nos deux oreilles, parce qu'on rationalise et on évalue, et à cause de la chute, on évalue très très mal. Et dans 2 Corinthiens 6.1, l'apôtre Paul, dans la partie B du verset, dit « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et 2 Corinthiens est un livre où l'apôtre Paul parle... De son apostolat, de son ministère, et puis il parle des difficultés qu'il rencontre dans son ministère, dans la vie chrétienne, et à un moment donné, il dit aux auditeurs, ne recevez pas cette grâce en vain, parce que maintenant il y a un jour favorable, je paraphrase, maintenant il y a quelque chose à expérimenter avec Dieu. Et on est dans une époque où il est facile, même pour nous, il n'y a aucun jugement, de vivre un christianisme naturel, ou pour le dire d'une autre manière, de vivre un christianisme limité. Hein. Et Dieu, on en a parlé un peu hier soir, nous met au défi ou met des situations devant nous qui suscite une soif de plus. Et Dieu cherche cette qualité de faim et de soif. On a parlé du psaume 119 hier soir. Mais on peut vivre un christianisme limité. Je dis parfois à Lausanne, le diable n'a aucun problème à ce que des chrétiens aillent dans une église, si dans cette église, l'enseignement qui va être donné ne leur donne ni une vision pour leur vie, ni... suffisamment un équipement, une onction, une présence, un réma, comme l'a dit mon épouse hier dans le temps de questions-réponses, suffisamment clair, un son clair. Paul en parle aussi. Si le son est pas clair, comment est-ce qu'on va se lever pour faire la guerre? Et donc, on peut être dans des églises, et je le dis avec énormément de prudence, parce que ce sont des frères et sœurs, hein. Mais la réalité est que on vit des temps périlleux, fâcheux. Et c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, mais petit aparté, je vais vous parler de mathématiques aujourd'hui. On va parler un peu de mathématiques, et on va tourner pour ce faire en Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, et je vais vous lire quelques versets. Matthieu 20, à partir du verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 4, il leur dit « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent, Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Verset 8, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et on va directement au verset 15 où il est dit « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Et on a une histoire, j'ai dit qu'on va parler de mathématiques. En Suisse, on aime bien ce qui est pondéré, équilibré, juste, précis, à l'heure. On se tient 30 secondes avant l'heure derrière la porte et on attend que l'heure soit sur l'aiguille avant de sonner. Hein. On est extrêmement précis. Et une parabole est une histoire, une illustration souvent imagée, qui nous enseigne un principe spirituel important. Et il y a plusieurs éléments dans cette parabole qu'on vient de lire, c'est que tout d'abord on a un maître de maison, une autorité, hein, un type de Christ, qui, à un moment déterminé, durant une période de temps, va louer des ouvriers. Il va louer des ouvriers. Et à l'époque, la coutume était que, et ça existe encore aujourd'hui dans certains pays, des hommes se plaçaient sur une place et attendaient qu'un maître de maison ou un propriétaire terrien vienne les chercher pour leur donner du travail. Et ici, dans notre histoire, le maître de maison va sortir pendant une période déterminée, précise. Hein. Normalement, c'était de 6h du matin à 18h le soir. 6h du matin à 18h le soir pour aller travailler dans sa vigne. Et puis, on voit au verset 3 qu'il sortit vers la troisième heure. Pardon. Il sort d'abord au verset 1, dès le matin, et il convint avec eux d'un salaire. Et au verset 3, il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il est important dans le royaume de Dieu de savoir dans quel don on opère, dans quelle sphère Dieu nous a appelés. Et l'appel de Dieu sur notre vie est important, pas uniquement en termes d'œuvre, mais aussi en termes d'identité. Parce que lorsqu'on est dans l'appel chrétien, on va dire large, et qu'on ne sait pas quelle est notre place, ou parfois qu'on refuse hein, d'écouter la place que Dieu a pour nous dans le royaume, on peut être sans rien faire, mais il y a un manque, en fait. Et je disais tout à l'heure, on peut facilement vivre un christianisme naturel, un christianisme sans vision. Et on a un peu parlé de ça hier soir, sur le fait que, on parlait de la foi, du fait de croire et de la foi, et j'ai dit la foi est liée à une vision, à une révélation. Et Éphésiens 1:17 nous dit que Dieu, Paul demande que Dieu nous donne un esprit de révélation, de sagesse et de révélation pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et on a dit que la révélation vient d'une vision et la vision vient d'une relation, d'une communion avec Dieu, d'une communion. Et on voit ce maître de maison qui, dans une période d'histoire précise, appelle. Il sort et il appelle. Il sort et il appelle à chaque instant. Et le diable, dans le jardin d'Éden, a fait plusieurs choses, on le sait. Mais l'une d'elles, ou deux d'entre elles, c'est que il a d'abord mis en doute le fait que Dieu nous dit toute la vérité. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Et Il ajoute, non, 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 non. Il sait très bien que si, en fait, il vous donne une partie de la vérité, mais pas l'ensemble. Donc il a essayé d'entacher le caractère de Dieu envers sa créature, envers nous. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est que il a entaché notre relation avec Dieu. Et on parlait de ça aussi hier, parce que si on n'a pas une relation de confiance avec quelqu'un, on n'a pas de relation. Hein? Et c'est pourquoi certains ouvriers dans la vigne sont sur la place sans rien faire. Ils sont dans le plan de Dieu, mais pas dans l'appel de Dieu pour leur vie. Ils sont... Ah, il y a quelqu'un en haut, j'avais pas vu. Bonjour. Je me disais tout à coup, il y avait... Ils sont chrétiens, mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas de relation. Et, chose dangereuse pour chacun de nous, il n'y a pas une application de ce que la vérité de la parole de Dieu est réellement. On a parlé de ça aussi hier dans le psaume 119 au verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Et Dieu produit un travail dans nos cœurs afin que on arrive à croire réellement ce qu'il dit, que ce qu'il dit est la vérité, et la seule vérité, comme tu l'as dit, la seule vérité. Et il continue, et il les appelle en leur donnant une vision. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et on a un Dieu qui non seulement nous appelle, et le mot pour ouvrier est intéressant, c'est ergates en grec, hein, qui vient du mot ergon, et qui parle d'une œuvre physique, d'un employé qui va travailler physiquement, mais qui va le faire avec son intelligence et de manière individuelle. Dieu est personnel. Dieu est personnel avec chacun d'entre nous. Et il nous donne une vision personnelle. C'est pour ça qu'on peut pas se comparer. Personne. Parce que chaque membre du corps a une portion en particulier. Et pour nous, je dois dire, c'est une joie d'être avec vous, mais c'est la fête, parce que entre nous, il y a Christ, il y a la vie, il y a la vie de résurrection, et on vit quelque chose ensemble, que le monde ne connaît pas. Et verset 5, il nous est dit, ils y allèrent. Donc ils ont entendu, c'est notre thème dans cette dernière partie de l'année à Lausanne, j'ai vraiment eu à cœur de changer le thème que j'avais choisi au début de l'année, et c'est écouter la voix de Dieu. C'est ce qu'on est en train d'étudier au travers d'Éphésiens et d'autres livres à Lausanne, mais d'écouter la voix de Dieu, pas de l'entendre uniquement, mais de l'écouter. Et ces ouvriers ont écouté, et ils y allèrent. Ils mettent en pratique. Et au verset 5, il nous est dit, « Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. » Et moi, ce qui m'interpelle, j'ai dit que j'allais parler de mathématiques, c'est les ouvriers de la dernière heure. Étant sortis vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée ?» Sans rien faire. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et la scène ici a changé. C'est que il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il est trop tard. On a dit que c'était de 6h du matin à 18h. Et c'est approximativement 17h. Donc il n'y a plus beaucoup de travail. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. Hein? Ce n'est pas juste d'appeler des gens qui ont été là toute la journée et qui seront appelés que pour un court moment. Mais ça ne limite pas Dieu, en fait. Ça ne limite pas le Dieu de grâce. Parce que Dieu appelle, malgré qu'il est trop tard, malgré qu'on a raté des opportunités, malgré peut-être notre incompétence, notre passivité parfois. Dieu appelle quand même ses ouvriers de la 11e heure. Et pour nous, les Suisses qui aimons les choses très droites et très équilibrées, c'est un non-sens. Mais la grâce est un non-sens pour l'être naturel. Le fait que Dieu nous poursuit, le psaume 23, verset 6, nous dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront », mais dans l'original, c'est « me poursuivront tous les jours de ma vie ». Dieu continue d'appeler, continue d'appeler, continue d'appeler. Et il n'est pas limité, il n'est pas limité parce qu'il nous a déclaré justes. Il nous a déclaré justes. Et il nous voit sans tache. L'agneau en nous, Christ en nous, l'espérance de gloire. Et il appelle ses ouvriers et il les revêt de la même dignité que ceux qui ont été appelés au commencement. Ça aussi, c'est pas juste. Mais la grâce est injuste. La grâce restaure des situations qui sont mortes. Ephésiens 5:16 nous dit « Rachetez le temps ». Mais Dieu rachète nos situations. On l'a chanté aussi. Dieu rachète nos situations. Dieu rachète ce qui est désespéré. Dieu rachète ce qui est trop tard de notre point de vue. Encore une fois, entre nos deux oreilles. Et vous savez, dans le jardin, Adam et Ève étaient nus, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Parce que la Shekhinah de Dieu était sur leur vie. Il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de stress, parce que la simple présence de Dieu recouvrait leur vie. Et pour nous, croyants de la nouvelle alliance, la grâce nous revêt de cette dignité, nous revêt de cette sécurité, nous revêt du fait que Dieu, je dis souvent à Lausanne, tout va bien dans la maison de notre Père. Tout va bien dans la maison de notre Père. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Et puis, comme on l'a lu, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Là non plus, c'est pas mathématique. C'est pas juste. C'est pas juste que Dieu fait. Heureusement, gloire à Dieu que c'est pas juste dans nos vies. Et que Dieu nous montre, on a parlé hier, notre dépendance. Il nous place dans des lieux de dépendance, dans des lieux où c'est impossible, peut-être trop tard, peut-être une série, pas seulement une, de mauvaises décisions, de passivité, mais Dieu a une autre logique qui nous permet de vivre des choses avec lui. Et c'est vrai que l'homme naturel, au verset 12, se plaint du plan de Dieu. L'homme naturel se plaint souvent du plan de Dieu. En 1 Corinthiens 10, 6, il nous est dit que les choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction. Et le peuple de Dieu dans le désert, lorsque il était mis au défi, parce qu'il y avait des géants, parce qu'il y avait des impossibilités, eh bien, la pensée naturelle a pris le dessus. Parce que nous avons été appelés par la foi, mais la foi n'est pas une tare ou un fardeau. La foi est un privilège, c'est une qualité de vie surnaturelle. Bien sûr que ce n'est pas naturel pour nous. Ce n'est pas naturel d'aller donner un feuillet à une personne dans la rue et lui dire « Dieu t'aime, Jésus-Christ a payé pour toi, c'est pour personne, aucun de nous. » Mais on est transporté lorsqu'on vit ces choses avec Dieu. Et au verset 12, donc, « Tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Moi, je suis intimement convaincu que ceux de la première heure sont cousins proches du frère du fils prodigue de Luc 15. Parce qu'ils ont le même problème par rapport à la justice de Dieu et à la grâce de Dieu. Ils n'acceptent pas. La pensée naturelle est une folie pour l'homme. La pensée de Dieu, pardon, est une folie pour l'homme naturel. Et on va finir avec ça. Au début de l'année à Lausanne, notre thème c'était « Nous ne limitons pas Dieu dans nos vies ». Et on va juste tourner dans le psaume 78, pardon. Psaume 78, au verset 41, il nous est dit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. » Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. C'est un psaume d'Asaph qui parle des expériences du peuple de Dieu dans le désert. Et le mot ici qui a été traduit par « provoquer le Saint d'Israël » dans l'original, du reste la version Darby ou la version King James traduit ce mot plus fidèlement, c'est « ils limitèrent le Saint d'Israël ». Ils limitèrent par leur pensée naturelle le Saint d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que la racine du mot signifie aussi attrister. Et on a une belle conjugaison, provoquer, limiter, mais aussi attrister Dieu. Parce qu'il s'agit d'une relation avec notre Dieu. Et lorsque Dieu met des choses devant nous, et que nous le limitons, hein, comme les ouvriers de la première heure, qui disent « c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça devrait se passer », eh bien nous attristons la relation avec le Saint d'Israël. Avec le Saint d'Israël. Parce que Dieu nous a donné une identité, hein, une position particulière. Nous sommes membres de la famille de Dieu en Éphésiens 2, 19. Nous sommes membres à part entière. Il nous a intégrés dans la Trinité et nous avons une intimité avec lui. Et cette intimité nous donne le privilège de pouvoir vivre des choses surnaturelles avec lui. Et simplement, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui.